explorer de nouveaux mondes étranges.
Je sentais souffler sur ma nuque le vent fou de l'aventure.
Eh bien moi j'y vais, je plonge.
Il est des rencontres décisives qui peuvent influencer toute une existence. Celle qu'a faite Laurent Tillon en forêt de Rambouillet en fait partie. Il avait 15 ans quand il a rencontré Quercus et depuis, il ne peut plus se passer de lui. Il est un repère, un soutien, un ami. Détail qui a son importance, Quercus est un majestueux chêne de 240 ans. Un peu comme le petit prince d'Antoine de Saint-Exupéry avait noué avec sa rose une relation qui faisait d'elle une rose unique au monde, Laurent Tillon a fait de Quercus un chêne unique au monde. Lui, l'ingénieur forestier qui côtoie à longueur de journée des arbres, a besoin de rendre régulièrement visite à ce chêne en particulier. À force de le côtoyer par tous les temps et en toute saison, en le regardant vivre, il a appris à le connaître. La forme de ses branches, les cicatrices sur son écorce, sa façon de bourgeonner, ses relations avec les animaux de la forêt. Progressivement, le géant de bois a dévoilé sa longue et tumultueuse histoire à son visiteur. Une histoire que Laurent Tillon raconte dans son livre intitulé « Être un chêne » aux éditions Actes Sud. Cet après-midi, il nous emmène dans la forêt de Rambouillet à la rencontre de Quercus. Et en fin d'émission, nous irons faire un tour en Islande avec le photographe et géologue Arnaud Guérin qui explore en ce moment les volcans de cette île de glace et de feu. Voilà pour le programme de cette émission préparée par Sophie Vaux et réalisée par Marion Lelay avec à la technique Loïc Frapsos. Soyez les bienvenus dans notre bivouac.
France Inter. Le temps d'un bivouac. Daniel Fievé.
J'ai voyagé dans toutes les forêts du monde. J'ai exploré des kilomètres de sous-bois. À chaque instant, j'ai été émerveillé par la capacité des grands arbres à vivre immobiles. Combien de fois ces êtres de bois ont mis au défi ma propre intelligence. Vivre immobile. Ils ont inventé une autre manière d'être vivant, presque imperceptible. L'univers mystérieux du génie végétal.
Extrait du documentaire « Il était une forêt » avec Francis Allais, botaniste et grand spécialiste des arbres. Bonjour Laurent Tillon.
Bonjour Daniel.
Vous partagez avec Francis Allais cet émerveillement, cet étonnement devant les arbres et l'énergie qu'ils déploient pour vivre immobile.
Et puis oui, c'est des êtres qui sont vraiment merveilleux, qui malgré le calme apparent en fait développent des capacités qui sont difficiles à percevoir pour nous les humains, pour nous les animaux. Ce sont des végétaux qui assez vite s'ancrent dans le sol, et du coup leur manière de vivre, leur manière d'être vivant est inévitablement chamboulée par rapport à ce que nous on peut rencontrer.
Alors il y a les arbres, et puis il y a votre arbre, Laurent Tillon, Quercus, que vous avez rencontré quand vous étiez adolescent. Vous vous souvenez, en tout cas vous le racontez dans votre livre, très précisément du jour de cette rencontre et de la façon dont ça s'est passé. Racontez.
Ah, je m'en souviens précisément parce que ça a été un véritable bouleversement pour moi. Faut imaginer, bien sûr j'avais une appétence pour la nature de manière assez générale, mais sans avoir envie d'en faire une vocation comme ça a été le cas après.
Ouais.
En pleine adolescence, donc cette période un petit peu délicate pour chacun d'entre nous, la période où on cherche à s'ancrer dans la société, à savoir exactement vers quel avenir on veut se destiner. Moi j'étais complètement paumé. Pour être honnête avec vous, vers la fin de mes 14 ans, début des 15 ans, je savais pas du tout vers quel cycle je devais me diriger. Et puis, en fait, j'étais en pleine balade en forêt, à vélo, avec des copains. Les copains sont partis devant. Et puis, à un moment, je traverse une zone de sable. Alors, pour les habitués du vélo en forêt, on sait à quel point c'est difficile de pédaler dans le sable. C'est le cas de le dire. On pédale un peu dans le vide. Mmh. On se fatigue très vite. Et juste à la sortie de ce passage sableux, la chaîne de mon vélo a sauté, un peu comme un signe, pour le coup, juste devant un sanctuaire forestier, alors que je me sentais désespéré. Je tiens à dire que à ce moment-là, ne sachant pas dans quoi aller, fatigué par les kilomètres que j'avais engrangés derrière moi, je lève la tête Et là, je vois ce sanctuaire et je me suis senti apaisé comme jamais depuis des mois et des mois.
Mmh. Devant et cet arbre.
Alors, devant ce sanctuaire forestier,
Qu'est-ce que vous appelez un sanctuaire forestier ?
En fait, c'était un secteur avec des grands arbres, des chênes, des hêtres, au milieu d'une zone que j'avais traversée avec des pins. Et très étrangement, je ne saurais pas l'expliquer. Alors aujourd'hui, oui, avec toute l'histoire que j'ai vécue avec ce secteur et avec Quercus, avec mon arbre. Mais à ce moment-là, j'étais incapable d'expliquer pourquoi je me sentais serein. Et j'ai eu envie d'y revenir le plus souvent possible. Mmh. Sur le coup, je ne pouvais pas revenir tout de suite. Mais quelques semaines après ça, j'y suis retourné. Et puis, j'ai déposé le vélo. J'ai eu envie de m'asseoir contre un arbre. J'ai choisi un arbre, comme ça, un peu au hasard. Et puis, j'étais inconfortablement installé. Ça allait pas bien. Je suis allé la fois suivante sur un autre arbre. Et puis, la fois suivante, encore sur un autre. Mmh. Jusqu'à ce que je tombe sur un chêne, en particulier, qui présentait deux avantages, deux particularités. La première, c'est d'avoir un empattement à un endroit donné sur son tronc. C'est-à-dire, vous voyez, la zone qui fait démarrer les racines vers le sol, qui s'enfonce sous le sol. Mais qui avait un écartement idéal pour me permettre de m'asseoir comme dans un fauteuil.
Mmh. Vous a accueilli, en fait.
Exactement. En fait, ce chêne m'a accueilli. Et puis, en plus, il m'a accueilli à l'abri de tous les passants de la forêt. Mmh. Pourquoi ? Parce qu'en fait, cet empattement se trouve à l'opposé du chemin par lequel j'arrivais. Et puis, étant bien disposé, là, je me suis posé là. Et c'est vrai que, après, à chaque fois que j'y venais, soit l'arbre ne me parlait pas, entre guillemets, il se passait rien de particulier, ou alors, à chaque fois, c'était toujours comme des évidences, comme des choses assez extraordinaires, des rencontres incroyables avec la nature qui m'entourait, avec tous les vivants qui m'entouraient. Et parfois, je venais pour 10 minutes et finalement, je me rendais compte que j'étais resté 2 heures,
ouais.
Très apaisé et serein, prêt à attaquer la semaine qui m'attendait.
Ouais, indéniablement, hein, depuis cette rencontre, vous avez un arbre dans votre vie, Laurent Tillon. Ça peut sembler étrange, mais si on y pense, nous sommes nombreux à avoir noué un lien affectif avec un arbre qui compte un peu plus que les autres, qui a une place à part dans notre cœur.
Alors, s'il y en a un que je dois sélectionner, c'est un marronnier qui a été planté par mon arrière-grand-père dans la ferme où je suis né. Et la particularité de cet arbre, c'est qu'il est en plein milieu de la cour, du corps de ferme. Et en dessous, c'est un puits. Mais pas un puits comme les autres, c'est un puits dans une voûte, une grotte, une énorme grotte. Et ce sont les racines du marronnier qui tient la surface. Et je garde donc en mémoire ce côté, l'arbre vers le haut, majestueux, et en même temps, en dessous, c'est pareil, c'est majestueux, c'est l'eau.
J'ai grandi en Méditerranée. Chez nous, l'arbre clé, c'est vraiment l'olivier. Et quand j'étais petite, mes parents ont acheté un terrain. Ils ont planté des petits oliviers qui étaient un peu plus grands que moi à l'époque. Et donc, on a grandi côte à côte. Et puis maintenant, ils nous donnent un petit peu leur richesse complète quoi, à travers cette huile. Et franchement, c'est un beau symbole. Quoi. Et voilà, on prend soin d'eux, ils prennent soin de nous. Et c'est la boucle est bouclée.
Il y a le tilleul chez moi qui est très aspirant, on va dire. Il y a vraiment une aura qui sort de lui. Au printemps, il nous fait de l'ombre. En hiver, il nous fait un abri contre le vent, contre tout ça, parce qu'il descend très bas. Et puis, ouais, il a vraiment cette aura. C'est l'endroit où je préfère être. Chez moi. C'est même un peu trop aspirant des fois. Dur de se remettre au travail quand on se met en dessous.
Extrait du doc de France Culture, « J'ai un arbre dans ma vie » diffusé en 2014. Lorsque vous racontez votre rencontre et votre lien à votre chaîne, Laurent Tillon, autour de vous, vous avez l'impression de surprendre ou au contraire que finalement nous sommes nombreux à avoir un ou plusieurs arbres dans nos vies?
J'ai beaucoup hésité avant d'écrire ce livre et de partager cette histoire parce que ça pouvait paraître assez étonnant qu'un ingénieur forestier, quelqu'un dont le métier est d'apprendre les relations entre les différentes espèces, les relations à la forêt, d'être scientifique, fasse part d'émotions, de sentiments qu'il pouvait ressentir au contact d'un arbre. Alors après, chacun d'ailleurs vit la relation avec un arbre comme il le souhaite, comme il l'entend. Certains les embrassent. Mmh. Moi, c'est pas mon cas. Je me pose contre son tronc et ça me suffit pour vraiment me connecter à lui. Ce qui m'a surpris, c'est la réaction de tout un tas de gens. Alors, plein de personnes qui ont eu la chance d'avoir un parent qui a planté un arbre à leur naissance, par exemple. Et c'est, je trouve, un geste très fort de transmission. Mmh. Et puis aussi, des collègues forestiers, et ils ont été très, très, très nombreux, je pourrais pas les compter, mais ils ont été très nombreux à me faire part de ce sentiment particulier que eux-mêmes avaient vécu au contact d'un arbre dans leur forêt.
Ouais.
D'un arbre en particulier auprès duquel ils allaient se ressourcer très régulièrement et qu'ils n'osaient pas transmettre, qu'ils n'osaient pas parler de cette histoire-là parce que justement, ça les mettait peut-être en difficulté dans leur manière de faire comprendre le fait qu'ils étaient malgré tout forestiers, qu'ils pouvaient avoir des sentiments et ressentir des émotions auprès d'un arbre ou auprès de la forêt tout simplement.
Vous avez fait tomber un tabou finalement. On peut avoir des relations amicales, affectives avec un arbre. Alors à force de le regarder, votre arbre, votre chêne, Quercus, vous avez réussi, rien qu'en le regardant, à reconstituer toute son histoire. D'abord il y a son âge, 240 ans. Comment on est sûr de façon aussi précise que cet arbre est né en 1780, un peu avant la Révolution?
Alors, il y a plusieurs indices qui nous permettent de le savoir. Alors, c'est vrai que d'abord, son architecture, telle qu'elle est construite, est très dépendante de tout un tas de facteurs. Le premier facteur, bien sûr, c'est la lumière. Il a fallu qu'à un moment donné, il ait un apport de lumière suffisant pour réussir à croître et à s'élever contre la gravité vers le ciel. Mais en même temps, il l'a fait en fonction de ses voisins. Et parmi ses voisins, il y a différents arbres, dont certains, très peu, ont fait l'objet d'une exploitation assez récemment et certains qui avaient un diamètre beaucoup plus faible étaient aux alentours de 190 ans. Donc, en regardant la structure de mon arbre et puis en comptant les cernes de croissance sur les souches des arbres voisins, j'ai pu estimer son âge à quelques années près, autour de 240 ans. Il y aurait un moyen scientifique, c'est de faire une carotte, un sondage à l'intérieur du tronc, d'en ressortir ce petit carottage de bois et de compter les cernes pour avoir son âge précis.
Vous n'allez pas faire ça à votre arbre.
Surtout pas, surtout
pas. Ça peut quand même les fragiliser, ce genre d'opération?
Ça peut les fragiliser, mais pas très longtemps, parce que généralement, ils arrivent à recouvrir pour justement empêcher l'introduction de germes qui pourraient les attaquer.
Alors, vous allez jusqu'à raconter la naissance de Quercus, de votre chêne. Évidemment, vous n'y étiez pas, mais vous savez par les archives que il y a 240 ans, à la place de l'actuelle forêt de Rambouillet, il n'y avait pas une forêt. Qu'est-ce qu'on trouvait à cet endroit? C'était plutôt de la lande.
D'ailleurs, comme dans beaucoup de forêts royales à l'époque, c'était plutôt de la lande boisée. On était à une période qui faisait suite à des siècles et des siècles de prélèvement de bois en forêt. Il faut savoir que on avait besoin de bois pour la construction, pour construire des bateaux, notamment du bois de marine, et qui entraînait les rois à aller chercher et piller les forêts. On avait besoin de bois aussi pour se chauffer, pour s'alimenter. Et tout ça entraînait un prélèvement qui était très important. Et à l'époque, on était aux alentours de 15% de l'ensemble de la surface de la France qui était boisée. Aujourd'hui, on est à 31%, pour vous donner une petite idée. Donc on était deux fois moins.
Ouais.
Ça continue à décroître d'ailleurs. Mais du coup, beaucoup de nos forêts royales, à l'époque, ressemblaient plutôt à de la lande, sur lesquelles des très grands arbres existaient encore. Dans certains secteurs, il y avait encore des petits bois qui permettaient notamment l'exploitation pour le chauffage. Mais globalement, du coup, il y avait des arbres très dispersés dans les forêts. Et c'est comme ça que, c'est à cette époque que Quercus probablement est né, en tombant à l'état de gland d'un chêne que j'ai appelé le chêne parent, l'arbre parent. Il est tombé à un moment donné, donc au sol. Et il a fallu qu'il fasse sa place.
Et pour qu'il fasse sa place, là, vous imaginez que dans un premier temps, il a dû être protégé. Et là, c'est déjà son premier voyage. Après, il sera immobile toute sa vie de chêne. Mais pour le moment, il est à l'état de gland et il voyage à dos de mulot, on pourrait dire, ce chêne qui n'a pas encore germé.
À dos ou à dents.
Ou à dents de mulot, ouais.
En fait, là aussi, il faut s'imaginer que dans ces landes boisées, il y avait un droit autorisé à tous les gens qui étaient voisins de la forêt, c'était d'emmener les animaux pâturer. Et donc, à cette époque, il y avait des cochons, il y avait du bétail, il y avait aussi, bien sûr, les animaux qu'on trouve classiquement en forêt, les sangliers, les cerfs, les chevreuils, qui étaient présents. Et qui consommaient absolument toutes les graines produites par les quelques rares arbres qu'il y avait dans la forêt. La seule chance pour qu'un gland de chêne puisse arriver jusqu'à nos jours, en passant à l'époque à travers la dent de ces herbivores, c'était qu'il soit protégé par de la ronce. Et pour ça, il fallait qu'il soit transporté jusqu'à la ronce. Mmh. Et très probablement, pour qu'il soit transporté, alors ça aurait pu être par l'intermédiaire d'un jet, mais la probabilité que le jet lâche le gland, puis pile au niveau de la ronce, était quand même assez réduite. Donc, j'ai imaginé que ça devait probablement être un rongeur qui a d'abord attrapé le gland et qui l'a transporté jusqu'à une cache. Alors, il y a un rongeur qu'on connaît bien, l'écureuil, on sait qu'il fait des réserves et puis il en oublie une partie. C'est pareil pour d'autres espèces, notamment les mulots. Parce que à l'intérieur du roncier, pour un écureuil, c'est pas forcément si facile que ça de passer, parce que notamment sa queue, très soyeuse, peut s'en mêler dans les ronces et du coup, ça peut lui poser un certain souci. Ouais. Donc probablement que c'est un mulot qui a transporté ce chêne.
Et puis qu'il l'a oublié là. Dans un premier temps, la ronce a été protectrice. Et puis vous le dites, après avoir été protectrice, elle est devenue torsionnaire, cette ronce, parce que évidemment, elle empêche l'accès au soleil pour la jeune pousse qui germe. Et là, vous imaginez qu'il a fallu que des humains interviennent pour un peu donner de l'espace à ce chêne. Pourquoi, selon vous, la main de l'homme, à un moment donné, est intervenue ?
Ce qui est certain, c'est que la ronce, elle joue un rôle fondamental au moment, effectivement, où les glands arrivent à l'intérieur du roncier. Ils bénéficient d'une protection particulière face aux grands animaux qui sont susceptibles de le dévorer. Le problème, c'est qu'une fois que le chêne a germé, une fois qu'il a pris racine, qu'il a développé ses premières feuilles, il lui faut impérativement de la lumière. Si certaines espèces, comme les hêtres, savent se contenter d'une faible lumière, le chêne ne le sait pas le faire. Et donc, il doit impérativement avoir accès à la lumière directe. Et la ronce pose un problème. Ce qu'on a découvert dans certains documents qui relatent notamment les obligations de ces bergers qui emmenaient leurs animaux pâturer en forêt, c'était une sorte d'impôt en nature qui consistait à ouvrir certains ronciers pour permettre justement aux jeunes chênes d'avoir accès à la lumière au milieu du roncier, mais en conservant la protection de la dent du gibier. Et donc, vraisemblablement, à Rambouillet, comme plein d'autres forêts royales, cet impôt était obligatoire.
Ouais. Et donc, vraisemblablement, grâce à cet impôt, le Quercus a vu le jour, la Exactement. Lumière du jour. Vous allez continuer de nous raconter l'histoire qui ne fait que commencer de votre chaîne Quercus. Laurent Tillon nous emmène bivouaquer en forêt de Rambouillet, sous le feuillage de son chêne, cet après-midi sur France Inter.
Les glands, en fait, les glands sont là. Là. Une toute petite chose.
Entre deux ça, feuilles, alors, à l'aisselle des bourgeons,
à l'aisselle des feuilles supérieures. Donc ça, c'est les fleurs femelles qui vont donner les glands. Et ça, ce sont les chatons de fleurs mâles qui ont donné le pollen. Et donc, ce sont ces toutes petites choses qui... On voit d'ailleurs déjà la toute petite cupule qui va devenir la coupe du gland.
Open a Forest, chanté par Émilie Loiseau dans Le Temps d'un bivouac.
C'est beau ces chemins creux.
Oui, c'est beau.
On peut peut-être passer par là parce qu'on va monter et on va voir une nouvelle végétation. Regardez, déjà là, on change. On est dans le monde des hêtres et on n'en a pas vu un seul en bas. On a moins de chênes. On va voir des châtaigniers apparaître. Puis on a tout le monde des fougères dans le sous-bois. Voilà. On a des arbres qui ont beaucoup, beaucoup. C'est des vraies sculptures, regardez ça.
Là, c'est deux arbres, enfin, c'est deux troncs qui se rejoignent.
Oui. Deux petits arbres qui ont accepté de vivre ensemble et qui sont soudés à la base. Alors, on a des traces du passé. Ils ont perdu des branches. Et ce qu'on voit, ces jolies formes, on dirait un petit peu des formes éléphantesques, des formes rondes comme ça, très puissantes, c'est les cicatrices. Ça a bien cicatrisé, ça prouve qu'il est très très vital. Et puis il a fait trois troncs magnifiques.
Marc Grolimund, agroécologue en balade, en forêt. Nous, c'est avec le biologiste et ingénieur forestier de l'ONF, Laurent Tillon, que nous nous promenons en forêt cet après-midi. C'est courant, Laurent Tillon, des troncs d'arbres qui fusionnent dans la forêt?
Ça arrive très régulièrement. C'est quand même assez particulier parce qu'il faut imaginer donc que chaque arbre a besoin de prendre sa place dans l'écosystème forestier. Et que, à la fois, il est en compétition, du coup, avec tous ses voisins, puisqu'il y a à la fois la course à la lumière, il y a aussi la nécessité de bénéficier de tous les oligo-éléments, de tous les nutriments qui se trouvent dans le sol, et dont la quantité peut être relativement limitée en fonction des écosystèmes. Mais pour autant, certains arbres essayent de se développer un peu aux dépens du voisin, mais avec parfois la conséquence de devoir dépendre finalement l'un de l'autre. D'ailleurs, c'est le cas pour Quercus.
Ouais,
Quercus,
pour votre chêne dans la forêt de Rambouillet.
S'est développé donc vers le haut. Aujourd'hui, c'est un arbre qui fait 32 mètres de hauteur, 85 cm de diamètre. Il est très vigoureux. Et puis alors, c'est assez assez rigolo parce que je comprends bien la description que pouvait faire
Marc Grolimund.
Voilà, lors de l'intervention précédente, il décrivait notamment le fait qu'il y avait des cicatrices sur l'arbre. Quercus en a aussi, et il en a notamment vers le sud. Il a deux grosses branches qui, par le passé, ont été présentes et qui ont été privées de lumière par un hêtre qui a poussé plein sud, empêchant les branches basses de Quercus d'accéder à la lumière. Pas grave pour lui. Lui, il est au-dessus de tous les autres, donc de toute façon, sa canopée lui permet d'avoir toute l'énergie dont il a besoin. Mais pour autant, les branches basses ne bénéficiant plus de la lumière, il a, entre guillemets, décidé d'abandonner ces branches-là. Alors, ça fait du bois mort au sol, ça entraîne des cicatrices sur le tronc, mais il n'y a pas de problème. Le hêtre qui est juste à côté, finalement, lui prend de l'énergie. Mais en même temps, le protège avec les fortes chaleurs qu'on a parfois certains étés, le protège parce qu'en fait, lui amène de l'ombre sur le tronc pour empêcher que la sève, justement, monte en température. Et du coup, pour lui, tout va bien. Mmh. Donc, à la fois, le hêtre lui a posé problème et en même temps, aujourd'hui il a besoin de ce hêtre pour le protéger en partie.
Ouais, il est en partie une sorte de bouclier, ce hêtre. Ces coopérations un peu forcées, on les retrouve dès son plus jeune âge. Vous dites que très très tôt, les racines du jeune Quercus qui se développe dans la terre rencontrent les champignons. C'est même un peu plus compliqué que ça parce qu'il y a des bactéries qui jouent les entremetteuses entre ces filaments de champignons et ces racines. Il se fait un peu... j'allais dire forcer la main, en tout cas forcer les racines par ce champignon. Mais en réalité, sans ces champignons, Quercus n'aurait pas vécu très longtemps.
C'est un mal qui était nécessaire. Il était nécessaire parce que, imaginons un jeune chêne, un tout petit arbre avec son système racinaire, qui tiendrait presque dans la main de n'importe qui d'entre nous, qui du coup est très limité dans sa capacité d'accéder à tout les nutriments qui se trouvent dans le sol, qui peuvent être répartis. Voilà, un petit groupe de phosphore à un endroit, un petit groupe d'azote à un autre endroit, des molécules comme ça dispersées dans le sol, l'eau qui peut être relativement loin en profondeur, notamment en fin d'été. Comment notre chêne peut accéder à ces nutriments? Il a pas le choix que de devoir s'associer à un organisme qui est quand même très différent de lui. Vous imaginez, un champignon. C'est aussi différent pour le chêne que pour nous. C'est, voilà, le champignon est quand même très différent d'un animal. Et ben, pour autant, à un moment, il va se créer cette forme d'association qui va nécessiter une déstructuration cellulaire du bout de la racine, de l'apex de la racine. Les deux organismes vont s'imbriquer, mais une fois Quercus va être imbriqué au champignon.
C'est pour la vie.
C'est pour la vie. Et puis, ça lui donne accès à tout le volume dans lequel se trouvent tous les nutriments, l'eau, et dans lequel se trouve l'organisme vivant qui est le champignon.
Mais alors, comme ces champignons se connectent aux racines de différents arbres dans la forêt, et peut-être certainement aux hêtres qui se trouvent juste à côté, on peut imaginer alors que ces arbres, ce chêne et son voisin, le chêne, sont connectés par les racines, par l'intermédiaire de ce champignon ?
Ils sont connectés et ça a même été démontré scientifiquement. Et ça
Mais
va très, très loin.
Ils échangent des informations
ils
et des nutriments.
Ils échangent des informations à travers le mycélium, donc à travers ces filaments de champignons qui se trouvent dans le sol. En réalité, notamment, il y a certaines études qui ont nécessité l'utilisation de petits éléments radioactifs. Alors, c'est pas du tout dangereux hein, pour nous ni pour l'arbre, mais ça permet de tracer les molécules qui circulent au sein des arbres. Et quand un arbre se porte très très bien, ce qui est le cas de mon chêne, Quercus, il produit autant qu'il le peut à partir du moment où il reçoit des nutriments, à partir du moment où il peut capter du carbone atmosphérique, capter de l'eau, de la lumière, il produit énormément de molécules qui peuvent être très diverses, dont des sucres dont il a besoin pour sa croissance. Mais une bonne partie de ces sucres, du coup, arrivent jusqu'aux racines et arrivent jusqu'aux champignons, dont le champignon a besoin pour croître, puisque lui, étant souterrain, il n'a pas accès à la lumière, il n'est pas en capacité de fabriquer les nutriments qu'il utilise pour sa croissance. Mais une bonne partie de ces éléments nutritifs, du coup de ces sucres fabriqués par l'arbre, circulent à travers le champignon et peuvent aller jusqu'à l'arbre voisin, dont des arbres qui, à un moment donné de leur vie, de leur existence, peuvent être en difficulté. Et c'est ainsi que chaque arbre, finalement, de manière un peu involontaire, soutient les autres arbres voisins qui l'entourent.
Il y a une sorte de solidarité entre arbres dans la forêt. Alors les arbres sont des êtres vivants, on l'entend en vous écoutant, extraordinairement différents de nous. C'est ce qui explique qu'on commence à peine à les comprendre. Voici ce que disait justement le botaniste Francis Allais, encore lui, à leur sujet dans Le Temps d'un bivouac en 2016.
Je propose qu'on les regarde comme des extraterrestres. Ils ne le sont pas, bien sûr, ils sont aussi terrestres que vous et moi. Mais j'imagine qu'un astronaute qui débarque sur une planète lointaine et qui voit une forme de vie aussi différente de la nôtre que l'est la vie d'un arbre, il va être profondément intéressé. Eh bien, c'est ce qu'on a devant nous. Je propose qu'on les regarde un peu comme des extraterrestres. On n'a pas de langage commun, mais ils n'ont pas de mauvaises intentions à notre égard. Et simplement avec un alien, faut être prudent, faut prendre du temps, il faut les regarder avec sympathie. C'est ce qu'on est en train de faire.
Francis Allais, spécialiste des arbres, qu'en pensez-vous, Laurent Tillon, ces arbres presque des extraterrestres?
Ils sont surtout tellement différents de nous qu'on a énormément de difficultés à les comprendre. Alors c'est vrai qu'on est tenté, à de nombreuses reprises pour les décrire, de chercher des similitudes avec ce qu'on peut vivre, nous en tant qu'animaux, nous en tant qu'humains. Donc par exemple, nous parlions du mycélium tout à l'heure et des échanges avec les champignons du sol. Et on a eu tendance à considérer, par exemple, comme une forme d'allaitement, le fait que des sucres d'un arbre transitent par le mycélium pour aller jusqu'à l'arbre voisin. On a eu tendance à considérer que c'était une forme d'internet. Mais c'est beaucoup plus que ça. Parce qu'en fait, cet arbre-là, il produit énormément de molécules, des molécules qui servent autant à l'alimentation qu'à la défense, qu'à l'information. On n'imaginerait pas, nous, être capables de produire ça. Mmh. Et puis par ailleurs, quand vous prenez finalement un organisme, alors notamment les botanistes comme Francis Allais, en viennent à émettre certaines hypothèses sur le fait que parfois quand un arbre pousse, donc faut imaginer, regardez quand vous avez un arbre par exemple dans votre jardin ou en lisière de forêt, ou si chacun a un arbre un peu totem auprès duquel il aime bien aller se ressourcer, regardez-le, regardez sa forme. Chaque branche a poussé en fonction des voisins, en fonction de l'accès à la lumière, mais avec des différences parfois majeures. Des houppiers très développés d'un côté alors qu'ils le sont beaucoup moins de l'autre côté. Et ça entraîne des petites différences qu'on appelle phénologiques, morphologiques, c'est-à-dire des petites nuances dans la manière d'exprimer, par exemple, la capacité à produire de la photosynthèse, la capacité à produire des éléments qui vont protéger l'arbre contre les agresseurs. Et ça entraîne des petites différences, parfois infimes, dans le patrimoine génétique de chacune de ces branches. Mmh. Et on en vient presque aujourd'hui à considérer que finalement, l'organisme qu'est l'arbre est peut-être un multi-organisme dont dépendent chacune des branches autour d'un seul et unique tronc qu'elles doivent se partager. Et ça, c'est quand même tellement différent de ce que nous, on peut vivre, que je comprends tout à fait que Francis Allais ait pu les comparer à des extraterrestres.
On poursuit notre balade en sous-bois avec vous, Laurent Tillon, et nous allons nous intéresser dans un instant à la santé des arbres de nos forêts.
Daniel Fievé sur France Inter.
Le parfum de cette forêt de pins, le sable qui coulait entre tes mains, un sorbet de groseille au sel marin, le lever du soleil de bon matin, faire l'amour au réveil avant midi, le petit déjeuner servi au lit, s'embrasser mouillé, se mettre à l'abri.
Polo et Pan qui chantaient les jolies choses dans le temps d'un bivouac.
À cet endroit, il y avait un tas de maquis secs et j'ai voulu nettoyer ce maquis. Au fur et à mesure, cet arbre est apparu. C'est un pistachier lentisque qui ne donne pas de pistache. C'est un arbre qui, normalement, est un arbrisseau. Des spécialistes, des scientifiques sont venus. Tout le monde a mis la fourchette entre 1000 et 1003. On a dit l'arbre millénaire. Je reviens souvent ici, on a de bons contacts tous les deux. Fraîcheur, ambiance différente. Même les sons ici sont différents quand on est sous l'arbre et à l'extérieur de l'arbre. S'il a survécu jusque-là, il survivra bien encore quelques temps, j'espère. Et plus que nous, certainement.
Un extrait du documentaire « Les arbres remarquables de France, un patrimoine à protéger ». On entendait cette femme, Élise, très attachée à son pistachier millénaire en Corse. Et on l'entendait, Laurent Tillon, décrire par les sens, les sons qui changent lorsqu'elle est sous son feuillage. Vous aussi, dans votre ouvrage, vous avez une approche très sensitive de votre arbre et de votre relation avec votre chêne Quercus.
Avec mon chêne et l'environnement. Ce qui est intéressant au pied des arbres, c'est que on peut y passer tout le temps qu'on veut sans déranger personne, sans le déranger lui-même. La connivence peut vraiment s'installer et on peut à un moment se laisser entraîner, bien sûr par la rêverie, mais on peut aussi se laisser entraîner par toutes les sensations qui peuvent nous traverser parce qu'une odeur, à un moment, ou le toucher du sol, ou d'une feuille, ou d'une matière particulière, vous amène à ressentir un petit peu plus les choses. Et puis, toucher l'écorce, bien sûr, de l'arbre, en fonction du fait que vous soyez face à un chêne, un hêtre, c'est plus ou moins rugueux. Et effectivement, aller en forêt sans être attentif à tous ses sens, sans être à l'écoute de tout ce qui nous entoure, ce serait peut-être une erreur pour réussir à vraiment percevoir ce qu'est l'arbre contre lequel vous vous êtes installé.
Ouais. Et puis, ces relations aussi, ça vous l'observez, vous le décrivez très bien, ces relations avec tous les animaux, du plus petit au un peu plus grand, qui l'entourent.
Quand on s'installe au pied de l'arbre, on peut prendre le temps. Et là, on a l'occasion de faire tout un tas d'observations. Notamment sur Quercus, tout en haut, à un moment donné, je parlais de certaines branches qui pouvaient être abandonnées. Il y a la trace d'une branche qui a été abandonnée et qui, derrière, a fait l'objet d'un recreusement d'une loge par un pic, le pic épêche. Puis d'autres espèces sont venues s'y installer, dont des espèces qui, notamment, régulent les insectes qui sont susceptibles de dévorer son feuillage ou de dévorer son bois. Donc ainsi, il a laissé un trou se faire à l'intérieur de son bois avec un risque à un moment que il soit abîmé, que petit à petit ça se dégrade, ça se décompose, mais en fait pas du tout. Au contraire, c'est même un atout pour lui puisque derrière, ça lui permet d'accueillir des animaux qui vont l'aider à contrôler les risques qu'un ravageur en vienne à l'abîmer de manière très sérieuse. Mmh. Et c'est toutes ces interactions-là qu'on peut observer en prenant le temps, en étant patient, en s'opposant contre un arbre.
Oui. On entendait aussi dans cet extrait, cet arbre, son pistachier, à cette dame, il était millénaire. Alors votre arbre est un petit jeune par rapport à son pistachier puisqu'il a seulement 240 ans, votre chêne Quercus. Il en est où dans sa vie? Jusqu'à quel âge peut vivre un chêne?
Oh, c'est un gamin. Ce qu'on sait, c'est que l'âge théorique pour qu'un arbre devienne vraiment adulte est aux alentours de 500 à 600 ans pour un chêne.
Ah ouais.
Et on connaît des chênes très très vieux en Europe, notamment dans la célèbre forêt de Białowieża, cette forêt primaire en Pologne, qui se trouve juste à la frontière avec la Biélorussie, héberge des chênes de plus de 1200 ans. Des chênes de la même espèce que Quercus. Et donc, on pourrait prétendre à ce que cet arbre, si on le laisse vivre, il puisse vivre très très longtemps. D'ailleurs, dans la forêt de Rambouillet, comme dans plein de forêts royales, il y a souvent des arbres sur certains carrefours qui ont des âges assez incroyables. Et sur cette forêt-là, il y a plusieurs arbres de 400 à 500 ans.
Alors vous avez bien dit, si on le laisse vivre, et les arbres de nos forêts semblent devoir faire face à de plus en plus d'épisodes de sécheresse et de maladies ou de parasites. Un exemple parmi bien d'autres, en France, la moitié des plantations d'épicéas sont décimées par un insecte, le scolyte, comme ici dans le Morvan, où les agents de l'ONF constatent les dégâts.
Voilà, là c'est flagrant. Voilà les insectes qui sont en train de forer. Le pied de l'arbre, il est recouvert de sciure. Quand on voit ça, l'espérance de vie, elle est de... Allez, 2 mois, tout cassé. Ouais, celui-là, problème réglé.
Ouais.
Et là, celui-là a été piqué au printemps.
Piqué au printemps, celui-là?
Donc il a réagi, il a fait des coulées de sève.
On voit qu'il a cherché à se défendre.
Donc là, on voit des piqûres en fait qui font la taille d'une tête d'épingle un petit peu partout sur l'arbre. En fait, l'insecte, il passe à travers l'écorce et après, il vient pondre entre l'écorce et le bois. Il y a une espèce de pulpe très nutritive en fait pour l'insecte. Et du coup, les larves vont se développer en mangeant toute cette pulpe-là. Sauf qu'en fait, la sève circule dans cette pulpe. Donc, en quelques semaines, il n'y a plus aucune sève qui circule dans l'arbre. C'est-à-dire que le haut de l'arbre n'est même plus connecté avec le bas. Et c'est pour ça qu'il va mourir très rapidement.
Les épicéas du Morvan attaqués, c'est un exemple parmi d'autres. Entre les insectes, les champignons, les bactéries, il y a des ravages dans nos forêts. Le chancre coloré du platane, la calarose du frêne, la mineuse du marronnier. Est-ce que ça a toujours été comme ça ou est-ce qu'il est en train de se passer quelque chose d'alarmant dans les forêts de France en ce moment, Laurent Tillon ?
Il y a toujours eu, dans le cycle naturel de la forêt, la mort de quelques arbres ici ou là. Il y a eu à un moment, une forme d'accélération. Dans les années 80, les pluies acides ont commencé à nous alerter. Et puis depuis 20 ans, de manière très claire, les forestiers voient bien que les choses sont en train de changer. On a eu la tempête de 99, qui était anormalement exceptionnelle, entraînant une forte dégradation des forêts. Et depuis maintenant une dizaine d'années, on sent une baisse de la pluviométrie très très forte et des sécheresses élevées qui durent très longtemps et puis des températures extrêmes. Et en fonction de l'essence forestière, elles ont des résistances, des capacités à gérer ces épisodes-là de manière plus ou moins élevée. Et on a quelques essences. C'est le cas de l'épicéa, c'est le cas du hêtre dans certaines régions, notamment dans le quart nord-est, qui sont très fragilisées. Imaginez des zones de forêt qui, par exemple dans le centre de la France, bénéficiaient de 900 à 1000 mm de pluie par an, parfois peuvent vivre maintenant depuis 5 ans, 3, 4 années consécutives à seulement 350 mm de pluie.
Donc ces maladies, c'est l'affaiblissement lié au changement climatique qui fait qu'elles se développent à ce point et sur beaucoup d'essences d'arbres différentes ?
C'est lié à deux phénomènes, le changement climatique et ces épisodes de sécheresse et de température extrême. Et là, clairement, il faut s'attendre à un fort changement du faciès de nos forêts. On estime qu'à échéance de 50 ans, à peu près un tiers de nos forêts vont vraiment changer de visage, même peut-être avant.
Alors, quelle manière ? C'est-à-dire que ce ne sera plus les mêmes arbres ou certaines vont péricliter ?
Alors, dans certains cas, ce ne sera plus les mêmes arbres. Clairement, on a de grosses craintes pour que le hêtre arrive à se maintenir. Parce qu'en dessous de 650 à 700 mm de pluie, il ne peut pas réussir à se maintenir. Mais en plus de ça, on va avoir des arbres dans des forêts qui aujourd'hui font 45 mètres de haut, qui n'arriveront plus à amener l'eau jusqu'en haut. Et donc, la succession d'arbres de la même essence qui pourra suivre seront obligatoirement des arbres plus petits, 20 mètres, 25 mètres, parce qu'ils n'arriveront pas à aller au-delà. Mais ce seront les mêmes essences quand même.
Et votre chêne, à vous, Quercus, pour finir sur lui, il se porte bien ou il montre quelques signes de faiblesse ?
Lui, il se porte très très bien, ses voisins aussi. Il est juste à côté d'une zone de marécage qui absorbe l'eau qui est drainée par les plateaux sur le côté. Mais le hêtre, Fagus, à côté, commence à montrer des signes de faiblesse. Ça pourrait chambouler l'organisation du système dans lequel se trouve Quercus.
Oui, parce que ce hêtre, vous nous l'avez dit, il sert un peu de bouclier à votre chêne.
Exactement, et ils sont vraiment interconnectés.
Ouais. On souhaite longue vie à votre chêne, et puis que vous puissiez vivre heureux encore longtemps auprès de votre arbre, Laurent Tillon. Je rappelle le titre de votre livre, superbe, « Être un chêne sous l'écorce de Quercus » aux éditions Actes Sud. Merci, Laurent Tillon.
Merci, Daniel.
Vous restez avec nous. Dans un instant, nous serons en ligne avec le photographe et géologue Arnaud Guérin, qui se trouve en Islande. Il va nous donner des nouvelles de ce volcan entré en éruption en mars dernier, non loin de Reykjavik.
Oh, master music motivated a more melodic melody that moves and mediates evolution of change that pulsate the mind state is not impossible for our mission to succeed. You ask, are we chosen? I'll say indeed. We studied and trained for a warrior mind frame. The counselors gather thicker than sofas lathered. Don't fret, cause it ain't over yet. By the time it is, the crowds are turning to cheers. No fears, just hold on tight, because the darkness will be over by the end of the fight. With doubts and fear, jealousy, all the things that cause casualty to the soul.
C'était Hopeful, chanté par Curtis Harding sur France Inter. Et la programmation musicale de cette émission est signée Thierry Dupin.
Sur France Inter, le temps d'un bivouac. Daniel Fievé.
Et nous partons à présent pour l'Islande, où se trouve un grand amoureux de cette île de glace et de feu, le géologue et photographe Arnaud Guérin. Bonjour Arnaud.
Oui, bonjour Daniel.
Alors vous êtes où exactement en Islande ?
Eh ben écoutez, je suis sur le bord de Hvalfjörður, c'est-à-dire le fjord des baleines, à quelques encablures de Reykjavik, et je vois au loin la péninsule de Reykjanes avec le site de l'éruption là, qui a commencé au mois de mars.
Et voilà, ce fameux volcan entré en éruption en mars dernier, vous êtes allé lui rendre visite ?
Oui, alors j'y suis allé déjà depuis le début de l'éruption trois fois, et la dernière fois la semaine dernière, là, avec une activité qui est une activité vraiment exceptionnelle, avec un petit cône de scorie qui s'était constitué au bord du lac de lave. C'était vraiment une espèce de respiration tellurique extraordinaire, avec des coulées de lave qui descendaient. C'est en train de construire un espèce de volcan qu'on appelle un volcan bouclier. Et c'est une éruption qui est vraiment spectaculaire et riche d'enseignements pour les géologues et les volcanologues.
C'est une éruption qui se fait en continu, ou c'est par période, avec des périodes d'accalmie entre les éruptions ?
Alors en fait, ça a évolué depuis le mois de mars, mais en ce moment, l'activité se fait par des phases d'activité d'à peu près 6-7 heures, entrecoupées de phases de repos. En tout cas, il y a un lac de lave qui est actif en permanence, mais quand le volcan est vraiment en activité, il y a des débordements avec des coulées de lave qui vont construire un édifice volcanique avec des pentes très faibles, qu'on appelle un volcan bouclier qui a été décrit ici en Islande. C'est un bouclier scandinave retourné.
D'accord. Il s'appelle comment, là, ce volcan qui est en train de se former sous vos yeux ?
Alors, en fait, il n'a pas de nom officiel encore. Il a le nom des montagnes dans lesquelles il est apparu, puisque c'est une fracture qui est apparue en plein milieu de montagne, qui s'appelle Fagradafjöll, dans la péninsule de Reykjanes, donc entre l'aéroport et la capitale Reykjavik. Ouais.
Pour les habitants de l'Islande, pour les Islandais, ce volcan, c'est devenu une attraction ? Ils viennent lui rendre visite régulièrement, ou c'est dangereux de s'approcher ?
Alors, les Islandais ont une relation avec les volcans qui est tout à fait particulière, parce que pour eux, c'est vraiment, c'est presque une grande fête. C'est-à-dire que dès qu'il y a un volcan qui rentre en éruption, ils prennent tout de suite leur gros 4x4 et ils montent dans les montagnes à s'approcher au plus près de la lave. Et c'est ce qui s'est passé au mois de mars. Et depuis, là, ils ont organisé pour les gens qui voyagent en Islande, il suffit de se garer sur le parking et on va voir le grand spectacle de la nature. Nous étions à 5 mètres des coulées de lave. Il y avait des explosions à 800 mètres de nous. Et tout ça, ça se fait dans une ambiance bon enfant, avec les secouristes qui regardent, avec un grand sourire. Et en étant, c'est vraiment à l'islandaise.
Ouais. Alors, vous avez aussi traversé, depuis que vous êtes en Islande, un grand désert que l'on nomme. Alors, je le donne directement en français parce que j'ai du mal à prononcer l'islandais. Il se nomme le désert qui tue les chevaux. À quoi ça ressemble ?
Alors, il s'appelle en islandais Sprengisandur. Ça veut dire, vous voyez, le désert qui tue les chevaux. C'est un désert de roches. Là, on est vraiment dans un endroit où le biologique, quand on monte dans ce désert, le biologique disparaît au fur et à mesure et ne reste que le géologique, la roche. avec des immensités à perte de vue et puis des glaciers. Ces glaciers, d'un côté le Hofsjökull, qui est le troisième plus grand glacier d'Islande, de l'autre côté le Vatnajökull, qui est le plus grand glacier d'Islande. Et là, on traverse, entre ces deux calottes glaciaires, on traverse un immense désert de roches. Il y a quasiment plus de végétation, plus d'oiseaux, et c'est vraiment un paysage qui est un paysage unique au monde.
Plus de végétation, c'est-à-dire nous qui avons consacré cette émission aujourd'hui à la forêt et aux arbres. Est-ce qu'il y a des arbres en Islande, Arnaud Guérin ?
Alors là, dans ces déserts, les arbres ont perdu une dimension qui est la dimension verticale, c'est-à-dire que le climat est tellement rude, le climat est tellement contraignant que les arbres sont au sol, ont un port, on a l'impression qu'ils sont passés dans un laminoir, ils sont directement sur le sol. Il y a des bouleaux arctiques ou des saules laineux qui ont peut-être une centaine d'années et qui ont la taille de bonsaïs complètement à l'horizontale sur le sol. Mm-hmm. C'est vraiment la caractéristique de ces déserts.
Ah oui, ça a l'air d'être vraiment particulier, hein, cet environnement. Est-ce que vous avez eu le droit aussi à une aurore boréale ?
Alors, avant-hier soir, on a eu une chance assez extraordinaire. On était en train de se baigner dans un bain d'eau chaude, donc chauffé par la chaleur de l'activité tellurique de la Terre. Et en regardant tout à fait par hasard, la nuit était bien tombée et d'un seul coup, on a vu les premières aurores boréales de l'année. Ça, c'est vraiment aussi un spectacle extraordinaire et vraiment une signature de l'Islande de pouvoir être dans de l'eau chauffée par l'activité tellurique de la planète et de regarder les effets du vent solaire, ce vent solaire qui a mis 3 jours pour arriver dans notre haute atmosphère et provoquer ce phénomène qu'on appelle les aurores polaires.
Ouais, on imagine le spectacle sublime. Il y en a un peut-être qui est moins rassurant, moins enthousiasmant. L'Islande fait partie de ces îles dans le Grand Nord où le changement climatique, encore lui, est plus important que la moyenne dans le monde. Vous qui connaissez l'Islande depuis maintenant une vingtaine d'années, est-ce que vous constatez une évolution des paysages et des glaciers que vous connaissez depuis longtemps?
Ben là, nous avons eu la chance d'aller au bout de la piste. On ne peut pas aller plus loin au milieu de nulle part, dans le centre de l'Islande, un endroit qui s'appelle Hverfjöll. Et j'y vais régulièrement. La dernière fois, c'était il y a 5 ans. J'étais allé il y a une dizaine d'années. Et là, sur les images que j'ai pu prendre, le recul des glaciers est vraiment... est vraiment marquant. Ça a tellement changé le paysage qu'on ne reconnaît pas. On n'est même pas capable de reconnaître les cartes pour pouvoir tracer un chemin, pour pouvoir randonner ou aller sur un glacier. Tellement ça change. Et puis avant-hier, on a eu des températures là dans les fjords du Nord. Il faisait 24-25 degrés en Islande en plein mois d'août. Aujourd'hui, c'est redescendu à une température qui est une température normale de 12-13 degrés. Donc on a doublé les températures et les Islandais étaient là. C'était vraiment la canicule pour eux.
C'est-à-dire que là, vous êtes quasiment au niveau du cercle polaire arctique et que vous étiez en t-shirt.
Oui, hier matin, dans le port de Siglufjörður, quasiment sur le cercle polaire, les marins descendaient les caisses de poissons, ils étaient torse nu. Ouais. Donc c'est vraiment, là on est vraiment dans des records de température et je crois que les records de température ont été battus dans les fjords de l'Est hier, avec des températures de 25,5 degrés dans les fjords de l'Est, donc ce qui est tout à fait anormal. Oui. Et vraiment, l'Islande est le thermomètre aussi de ce réchauffement climatique et est riche d'enseignements pour ça.
Merci Arnaud Guérin. Je donne le titre de vos deux derniers ouvrages sur l'Islande, tous deux parus aux éditions Glénat. Islande, les clés pour bien voyager, et puis les deux saisons de l'Islande, du soleil de minuit aux aurores boréale. Un grand merci à vous, Arnaud, et bonne fin de voyage. Daniel. Le temps d'un bivouac replie sa tente. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast. Merci pour les très nombreux messages que vous nous laissez sur la page Facebook du temps d'un bivouac ou sur la page de l'émission sur franceinter.fr. À demain pour de nouvelles aventures.